en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pierre Cardin, bienvenue au micro de Canal Académie. Vous êtes ici chez vous, Quai Conti, puisque vous avez été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en 1991 au fauteuil de Pierre Dux. L'émission En habit vert que nous avons l'habitude de consacrer au parcours des académiciens vous correspond pleinement de par son titre et votre situation. Grand couturier, homme de création, mécène, vous êtes probablement le seul académicien à connaître le secret des coutures, de la coupe, des broderies de cet habit voulu par Napoléon. Je vous propose aujourd'hui de lever le voile sur votre parcours, celui d'un homme libre, résolument tourné vers la modernité et le futur, qui a fêté en 2006, à l'âge de 84 ans, 60 ans de création. Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Pierre Cardin, que représente pour vous l'habit vert des académiciens, cet habit officiel, vous qui êtes le couturier de la modernité?
C'est l'uniforme des élus de cette institution. Je trouve, je suis très fier et très, très heureux d'avoir été choisi parmi ces membres. L'habit vert, en tant que couturier, si vous parlez du vêtement lui-même, je le connais bien, étant donné que j'ai fait beaucoup de costumes d'académiciens qui siègent ici et qui, malheureusement, certains ont disparu. C'est un vêtement qui a été, en effet, je crois que c'est le pain David qui l'a dessiné sous une ordonnance de l'empereur. Par conséquent, c'est très respectable et on reconnaît, en tout cas, le même personnage avec l'habit est un académicien. Le costume a une très grande importance pour moi, ayant travaillé beaucoup depuis toujours, depuis ma jeunesse, tant de costumes. C'est le vêtement, représente une situation, un social, représente un pays, représente un métier. C'est très important. Donc, le costume de l'académie, c'est évidemment un signe que vous êtes académicien.
Et pouvez-vous nous décrire votre habit vert, votre habit, vous avez confectionné...
L'habit n'est pas vert, c'est la broderie qui est verte, ce sont les feuilles de glantier, ce sont du chêne, mais l'habit est bleu marine très souvent, ou noir peut-être, on le choisit.
Parfois.
Les verts ne sont pas toujours les mêmes, la broderie est faite différemment selon la tendance qui est posée à l'académicien lui-même. Bon, certains le veulent plus clair, plus foncé, les verts ne sont pas toujours les mêmes, mais en tout cas, c'est un vêtement très très classique et... Je trouve que c'est un peu dommage que dans toutes les autres professions ou dignités, on ne porte plus des vêtements qui représentent leur propre métier et pour lesquels ils ont voulu avoir accession.
Vous avez dessiné et confectionné des habits de certains de vos confrères, vous disiez.
Oui, plus de 25. J'ai fait pas mal de costumes d'académiciens et c'est vrai que ça me plaît. C'est un travail qui est très dur parce que c'est encore un des seuls vêtements qui peuvent supporter des broderies à la main.
Elles sont faites
en France.
C'est-à-dire
qu'il faut 3 mois de broderie. Malheureusement, il n'y a plus de brodeurs en France. Non. Donc, on est obligé de les trouver peut-être en province. Moi, j'en ai encore le seul qui reste, qui est un monsieur très âgé, qui a formé heureusement ses 2 enfants, qui se trouvent en Auvergne et qu'il faut évidemment demander de faire. Ça demande 3 mois tout de même. Et c'est très cher, surtout.
Oui. Et puis, il y a aussi l'épée. Qui
l'épée
accompagne
est dessinée également
par le.
Enfin, moi, c'est moi-même qui l'ai dessinée. Oui. J'en ai transmis tous les symboles.
Alors, pouvez-vous nous décrire votre épée d'académicien?
Eh bien, l'épée d'académicien, ce sont d'abord des ciseaux.
Oui.
Chose qui est très rare. Et pour la première fois, on a fait deux lames l'une dans l'autre, qui à l'œil peut paraître seule, mais en réalité, elle a 2 lames. En plus, elle a la taille qui est symbolisée par une bobine, c'est-à-dire une taille très étranglée. Et ensuite, des épaules très très larges, étant donné que j'ai mis mes 2 symboles de Maxime et des Pierre Cardin en même temps dessus, c'est toujours extraordinaire. Nous avons le vert qui est ma couleur, puisque je suis écologiste et le vert a toujours été la couleur que j'ai toujours, depuis toujours, préférée. Et puis vous avez le dé qui est mon chapeau, puisque l'épée a un chapeau enfin symbolisé, évidemment très stylisé. Et vous avez également le fil à coudre. Et le cœur de l'épée, enfin le centre de l'épée, est un cœur, enfin une goutte d'eau ouverte en somme percée, ce qui correspond à l'aiguille par rapport au fil. Et vous avez autour de la taille un fil qui est en or, qui représente le fil à coudre. Elle représente absolument tous les symboles. La largeur de la carrure, parce que Maxime est un M, et j'ai fait très très large. Et ça représente en même temps la sculpture d'un homme qui est très large de carrure. Et en même temps, si vous voulez, la féminité de la mode à travers la fragilité de la taille qui est très très fine. En tout cas, tous les symboles sont réunis dans mon épée et c'est évidemment moi-même qui l'ai dessinée.
Merci de nous décrire votre épée parce qu'effectivement, les épées des académiciens sont de véritables bijoux, des véritables créations.
Ce sont des œuvres d'art qui, pour la plupart, ont été dessinées par des sculpteurs eux-mêmes.
Oui.
Et même beaucoup d'académiciens sculpteurs de l'Académie des Beaux-Arts sculptent l'épée des nouveaux académiciens.
Imaginons, Pierre Cardin, que le costume des académiciens disparaisse un jour. Comment imagineriez-vous
le costume pas, il faut respecter. Moi, je suis un homme de l'avant, un homme très moderne, un homme qui voit toujours le futur. Mais néanmoins, les traditions, c'est très important. J'ai le grand respect d'ailleurs de la culture, c'est à travers la tradition. Et ce serait très dommage qu'un jour, on décide de ne plus refaire les costumes dans les futurs académiciens, car c'est tout de même un symbole qu'il faut respecter. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il était moderne, le costume.
Oui.
Parce que c'était en fin de compte, le costume d'académicien était un costume de jaquette de rue que tout le monde portait. La seule chose que l'on a fait, on l'a brodé, et peut-être qu'on a mis un tissu différent, mais en plus de ça, c'est une question de climat. L'institut était très froid, ils étaient très épais l'hiver, surtout. Beaucoup de choses auraient pu changer. Maintenant, on ne le ferait peut-être pas de la même manière. Mais la broderie serait différente également. Il s'est trouvé qu'à l'époque, ça correspondait à l'empereur. Donc on a repris un petit peu, si vous voulez, le respect que nous avions pour notre empereur.
Pierre Cardin, vous êtes connu comme grand créateur de mode. Comment se sont déroulées vos années d'apprentissage et vos rencontres avec le monde du costume, du vêtement, de la taille, de la coupe dans les années 40? Tout jeune,
oui,
vous avez décidé de...
Mon âge permet de dire que j'ai travaillé pendant la guerre dans l'administration auprès du général Verdier, qui était délégué général de la Croix-Rouge française. Donc j'ai évidemment une formation d'administration, donc de compte. J'ai été comptable auprès de la trésorerie, donc je sais compter également. Ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais mon ambition enfant était d'ailleurs d'être acteur, ce que j'ai toujours regretté, que je n'ai pas fait, mais par la suite, comme vous le savez, je me suis occupé de plusieurs théâtres. Bon, je voulais être acteur, comédien, je voulais être danseur, enfin, tous les rêves d'un enfant, mais c'était la guerre. Donc il fallait travailler, et je me suis permis d'aller chez un tailleur pour apprendre pendant mes vacances, car j'aimais la mode, je regardais les magazines, et c'était inaccessible pour moi, car la couture était très très chère, et c'était inaccessible pour des gens d'un milieu très simple. Et même pendant la guerre, on peut dire que c'était vraiment la misère dans les vêtements, parce qu'il y avait des pénuries de tissus, de coloris, enfin c'était une période qui m'a beaucoup enrichi en réalité moralement, parce que je crois que c'est ces difficultés qui m'ont aider à être moi-même et essayer de lutter contre ces difficultés. Et j'en ai pas un mauvais souvenir, malgré les morts, malgré les sirènes, malgré les secours. J'ai été secouriste pendant la guerre, la Croix-Rouge française. Mais néanmoins, je voulais venir à Paris surtout. La guerre terminée, donc je voulais venir à Paris pour suivre des cours de théâtre et de danse. Mais
vous
le jour même, c'est
une...
un médium qui m'a aidé tout particulièrement. Avant de quitter Vichy, la veille même, je lui ai dit, écoutez, madame, qui était un médium, c'est une amie à moi qui déjeunait avec moi à la Croix-Rouge française. Je dois aller à Paris et j'aimerais savoir quel sera mon avenir. Je voudrais bien sûr continuer à travailler à la Croix-Rouge française, mais ce n'est pas du tout ma carrière. Je ne veux pas être un fonctionnaire. Vous serait-il possible de me donner une adresse ou des amis que vous connaissez peut-être? Je voudrais en tout cas commencer à être dans la mode également, parce qu'il fallait que je travaille. Je savais très bien qu'étant comédien ou en étant danseur, il fallait vivre. Et je ne connaissais personne habitant à Vichy pendant la guerre. Il fallait donc que j'ai un logement. Le logement, je l'avais en arrivant par la Croix-Rouge française, étant donné que j'étais quand même... Je travaillais chez la Croix-Rouge. Mais ce n'était pas du tout le but de ma vie. Et cette personne me dit, écoutez, voilà, j'ai une personne à Paris qui habite hôtel numéro 82 du Faubourg Saint-Honoré. Elle est très très liée avec la direction Paquin. Paquin était la plus grande maison du monde. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Il y avait 1200 employés, vous vous rendez compte. Rien que pour habiller les dessus sur mesure et de la créativité. Donc ça a été magique. Mais elle me dit, voilà, vous allez rencontrer cette personne. Et c'était donc un vendredi, j'arrive à Paris le samedi. Le dimanche, elle me donne l'adresse de ce monsieur que je dois rencontrer, qui était 82 Faubourg Saint-Honoré. Ce monsieur, le matin, me levant très tôt le dimanche matin, c'était rue Vivienne. Donc je fais la rue Saint-Honoré, encore le faubourg Saint-Honoré. Paris me paraissait tellement grand par rapport au cours Clémenceau, qui avait 32 mètres de long. C'était la plus grande rue de Vichy, vous pensez bien. Puis un adolescent, un enfant jeune, un innocent, un petit peu provincial, il faut bien l'avouer aussi.
Vous avez 24 ans,
donc tout
ans,
ça
45.
Était une chose qui pour moi me désorientait, parce que j'arrive dans Paris, la guerre, jeune, connaissant personne, enfin j'étais perdu. Et je voulais changer de métier, je ne voulais pas rester dans l'administration. Elle me dit, voilà, vous avez cette personne, voilà tel nom et tel numéro, donc 82 Faubourg de Saint-Honoré, M. Waldener. Évidemment, le matin, j'ai eu froid, j'ai pas dormi, avec l'inquiétude d'un Paris que je ne connaissais pas. Je me lève à 8h et je me mets à arpenter la rue Saint-Honoré, qui est très longue, et c'est une des rues les plus longues de Paris. En plus, il faisait froid, c'était en novembre, il y avait de la neige, donc c'est vous dire que j'avais un petit manteau qui était en moitié bois, moitié laine, des chaussures en bois également, qui étaient articulées que par des trombones qui retenaient les semelles de bois. Donc tout ça faisait que le froid, l'anxiété, la jeunesse, la peur, l'inquiétude, et en même temps, connaissant personne, enfin, on me donne donc ce médium me donne le nom de cette personne qui devait me faire rencontrer pour rencontrer et rentrer chez Paquin. Moi, très enthousiaste, je commence à marcher rue Saint-Honoré. Je m'arrête rue Royale, je me dis, mais enfin, rue Saint-Honoré, est-ce que je me suis trompé? Il y a un faubourg ici à Paris. Je ne savais pas tout ça, j'étais innocent, comme je vous l'ai dit. Et je vois devant l'ambassade d'Angleterre un monsieur seul un dimanche à 8h du matin. Donc, c'était le 18 novembre 1945. J'avais quitté la Croix-Rouge la veille. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Est-ce que pourriez-vous me dire si le 82 du Faubourg Saint-Honoré est encore loin? Il me regarde très étonné. Il me dit, mais jeune homme, pourquoi le 82? J'ai un de mes amis qui habite là, je dois le retrouver, mais comme innocent et un petit peu provincial, puis vous savez, j'ai froid, je suis entre la décision de prendre un billet d'ox ou alors de continuer comme il faisait froid et de la neige. Sinon, je vais aller prendre mon billet d'ox. J'avais vu la brasserie de la rue Royale qui était vraiment devant l'église de la Madeleine. Je lui ai dit, écoutez, sinon, j'irai prendre mon billet d'ox. Il était très intrigué par ce jeune homme qui lui demande le 82 du Faubourg Saint-Honoré. Il m'a dit, mais qui connaissez-vous? Quel est le nom? Je lui ai dit, c'est M. Waltener. Il me regarde, écoutez, jeune homme, vous êtes un petit menteur, car je suis M. Waltener et je ne vous connais pas. Et donc cette personne était la personne que l'âme, le médium de Vichy m'avait demandé d'aller rencontrer pour aller chercher un travail. Coïncidence, vous avouerez. La seule personne venant à Paris, le matin à 8h, je quitte mon lit, je rencontre personne dans la rue, je vois une seule personne, c'est la personne que je vais chercher et que je vais rencontrer. Donc, vous voyez les coïncidences d'un médium. Là-dessus, il me dit, écoutez, maintenant, petit jeune homme, puisque nous allons faire connaissance, vous allez venir avec moi et je vais vous offrir un billet d'ox. Et nous sommes allés prendre un billet d'ox rue Royale, dans un petit bar qui a été ouvert jour et nuit d'ailleurs. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous aider, puisque Madame de la Cambrodelle, je la connais très bien, c'est une amie à moi, vous venez de sa part. Par conséquent, je vais vous faire rentrer, si vous voulez bien, lundi matin, je vais vous faire un mot et vous irez rencontrer le directeur général de la maison Paquin. Paquin était donc rue La Paix, 1200 employés.
Alors, vous avez travaillé pour la maison Paquin, pour la maison Schiaparelli, puis pour Dior, en l'espace d'un an et demi, là, vous avez fait ces
très
trois maisons.
Très peu de temps, parce que c'est...
Qu'avez-vous appris dans ces maisons, oui, et de ces trois personnes?
Eh bien, en tout cas, bien sûr, rentrant chez Paquin, il s'est trouvé que chez Paquin, j'ai rencontré Cocteau Bérard, j'ai rencontré Marcel Escoffier, des gens très importants. Ils étaient en train de confectionner les costumes de la Belle et la Bête pour Jean Marais. Donc, quand ils m'ont vu, j'étais assez sympathique. Il faut dire que j'avais la carrière de Jean Marais, exactement, 1m77, large carrure, mince, enfin un jeune homme assez sympathique. Ça a plu beaucoup à Cocteau et à Bérard et au directeur de la maison chez Paquin. Ils m'ont dit, écoutez, on vous accepte et vous allez travailler sur les costumes de la Belle et la Bête. Car j'avais déjà fait un stage à Vichy, les moments de vacances, pour apprendre un peu le métier, car je voulais être professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas amateur du tout. Et ils me mettent, quelle chance pour moi, dans les ateliers. Et en même temps, on me remarque. Et on me dit, mais ce jeune homme peut servir de mannequin. Donc j'étais le premier
parce
mannequin au monde à l'époque.
Parce qu'il n'y avait pas de mannequin
mal vu d'être mannequin à l'époque. Ça voulait dire être féminin, masculin. Ça voulait dire homosexuel. Enfin, ça voulait dire beaucoup de choses désagréables. Ou agréables ou désagréables, ça dépend. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, si ça ne vous ennuie pas, alors non seulement j'ai fait participer à tous les costumes, oui, mais en même temps, j'étais celui qui, en tout cas, était le mannequin qui endossait tous les vêtements qui étaient faits de la Belle et la Bête pour Jean Marais. Donc là, si j'ai travaillé pendant un certain temps, pendant 3 mois, et ensuite, j'étais appelé parce que c'était du costume et en même temps, j'avais de l'ambition, je voulais changer, je voulais voir Paris
autrement. Ça a été une formidable chance pour
bien
vous de rencontrer
toutes
ces...
Bien sûr, ensuite, j'ai rentré chez Schiaparelli.
Voilà.
Là, Schiaparelli était en Amérique, étant donné que Mme Schiaparelli, pendant la guerre, avait des comportements, je crois, avec les rapports d'occupation. J'ai travaillé chez Schiaparelli. Et puis, j'ai une de mes amies qui était Gilberte Leviel, qui était la mère de Claude Brouet, qui est une grande journaliste, qui a travaillé maintenant, qui a mon âge d'ailleurs, qui était ma meilleure amie d'enfance, me dit, écoute... Schiaparelli, c'est bien, mais sa mère, Gilberte Leviel, son nom est là, me dit, écoutez, peut-être vous pourriez changer de maison. Je crois que... Alors, elle me dit, écoutez, j'ai un ami qui connaît Philippe Herriat, qui m'a fait connaître Philippe Herriat, cette personne. Philippe Herriat était académicien et connaissait Christian Dior. Christian Dior était un homme qui travaillait chez Lucien Lelong, avenue Matignon. Et bon, je ne le connaissais pas, bien avant qu'il ouvre sa maison, parce que Dior était travaillé comme modéliste avec Pierre Balmain, chez Lelong.
Balmain, que vous aviez rencontré,
oui,
déjà.
Oui, bien sûr, tous les deux, mais bien avant.
C'est encore une autre histoire.
Bien avant, Balmain, il habitait à Annecy, voilà, sa mère était couturière, enfin, etc. Non, mais là, je parle directement de la maison Paquin, à Schiaparelli, à Dior. C'est ce qu'on m'avait demandé, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Donc, je rencontre donc Philippe Herriat, qui était devenu un de mes amis à travers des amis de théâtre. Je lui dis, j'aimerais beaucoup rentrer chez Lelong. Il me dit, mais c'est très, très facile. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Christian Dior, qui est modéliste chez Lelong. Donc, il m'a aidé, il m'a donné, bien sûr, un petit mot. Et je me suis trouvé chez Lelong, avenue Matignon, en présence de Dior, qui me dit, écoutez, jeune homme, vous venez de la part de Philippe Herriat, qui était un grand comédien, également un romancier, un académicien, enfin, c'est un homme très important, me dit, écoutez, du fait que vous venez de la part d'un de mes grands amis, je dois vous avouer que j'ai donné ma démission chez Lelong, et on monte ma maison avenue Montaigne par M. Boussat, qui est un monsieur qui finance toute l'affaire. Si vous avez le temps d'attendre 3 mois, moi, je prendrai tout de suite dans ma nouvelle maison qui portera mon nom, Christian Dior. Maintenant, si vous voulez rentrer ici pendant 3 mois, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez les moyens ou le temps? Moi, je trouvais que c'était plus intéressant de commencer avec lui que de rentrer chez le nom que je ne connaissais pas en réalité. J'ai donc attendu 3 mois et le 17 novembre 1946, donc on ouvre à 9h la maison de M. Dior, financée par M. Boussac, et j'étais là à 8h, c'est-à-dire j'ai bien réveillé les 7 personnes, M. Rouette, Mme Ricard, M. Dior, enfin j'étais déjà prêt pour attendre et rentrer dans cette maison. Et nous avons participé au New Look. C'est-à-dire que j'ai participé à cet événement extraordinaire qui a bouleversé la mode, étant donné que la guerre, etc., la mode avait été abandonnée, il n'y avait plus de tissu, etc. Reconstruire avec M. Boussac, qui était un homme de textile. Et finalement, là, j'ai commencé à faire le New Look. Et c'est moi qui fais tous les tailleurs et manteaux du New Look. Et Marguerite, qui était donc la grande première également, a fait toutes les robes et les robes du soir. Voilà comment a été ma grande chance de ma vie, d'avoir ce médium qui m'a permis de rencontrer des gens vraiment sans, que je ne connaissais pas. Et la première personne arrivant à Paris, c'est la personne que je devais rencontrer pour entrer chez Christian Dior par la suite.
Alors, marquons une courte pause, Pierre Cardin, et retrouvons le passionnant parcours de votre vie dans quelques instants. Nous retrouvons Pierre Cardin qui a bien voulu accepter de nous raconter le long parcours de sa vie. Et nous retrouvons Pierre Cardin dans les années 50, après ses années d'apprentissage à Paris, auprès des grandes maisons qu'ont été les maisons Paquin, Schiaparelli et Dior. Alors en 53, Pierre Cardin, vous volez de vos propres ailes très rapidement, vous présentez votre propre collection dans votre grenier et vous connaissez l'année suivante le succès. Vous avez alors 31 ans. Vous êtes à ce moment-là déjà un artiste, un créateur de mode et en même temps un entrepreneur, ce qui va caractériser toute votre vie professionnelle.
Oui, après avoir quitté Christian Dior, d'ailleurs, c'est lui-même qui m'a honoré par 144 roses. Je voulais faire du costume de théâtre pour revenir à ma première idée, c'était d'être acteur et danseur, n'ayant pas pu être acteur et danseur parce que ma réussite était assez brillante. Mais néanmoins, en quittant Christian Dior, j'ai acheté une affaire de costume de théâtre et de cinéma. Car ça a été une manière pour moi de me rapprocher du cinéma et du théâtre. Donc l'affaire Pasco, en 1950 d'ailleurs, où j'ai quitté Dior, j'ai monté cette affaire de théâtre et de cinéma. Et puis il y avait beaucoup de balles à Paris à l'époque. C'était des gens qui ont envie de s'amuser. Les balles Bességui, le bal Lopez, le bal d'Arthur.
C'était l'occasion de créer des vêtements.
Cette évasion de la vie, du bonheur. Et en même temps, la vie recommençait, on reconstruisait. C'est une période où tout avait été démoli, tout a été défendu, tout a été vraiment dans la guerre, si l'on peut dire. Et cette période-là était un espoir très grand qui s'ouvrait devant où tout était possible à cette époque-là. Et moi, le fait que c'était possible, je me suis dit maintenant je veux faire du costume de théâtre au cinéma car je pourrais par ce biais-là rencontrer des gens. Et comme je vous ai dit, j'ai rencontré Gocteau et tous ces gens-là, Visconti, etc., pour qui j'ai travaillé d'ailleurs après vers la suite. Et au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que le cinéma, le théâtre, il n'y a pas un travail en permanence. Donc j'avais déjà 30-40 personnes en 5 ans, déjà tout le monde assumé. Donc j'avais des périodes très creuses et je me suis dit dans le fond, j'ai qu'à refaire une collection puisque je suis couturier avant tout et en tout cas je connais la mode. J'ai refait une collection et je quittais Dior 3 ans avant. Mais Dior, c'était des chaises dorées, c'était vraiment un hôtel particulier à Avenue Montaigne, etc. Et moi, c'était au 6e étage, dans un grenier, dans les ateliers. Donc je me suis dit, c'est très amusant d'habiter Vogue, Harper's Bazaar, Hélène Lazareff, toutes les grandes journalistes françaises et étrangères, dans un atelier assis sur des tabourets. D'abord, ma jeunesse le permettait. Et c'était très amusant, très sympathique. Vous savez comment les sont les journalistes, elles aiment bien avoir de l'inattendu, de la surprise, et ça les a beaucoup enchantés. Et ma grande surprise, c'est que j'étais à la une à l'égalité de Dior à l'époque. Donc pendant la période des collections, j'ai présenté sur des tabourets et j'ai présenté une collection de 50 modèles. Et il s'est trouvé que j'ai eu l'égalité en page, première page du Figaro. Évidemment, ça m'a donné un essor énorme. Et j'ai eu surtout les acheteurs qui sont venus voir ma collection.
Tout de suite.
Et là, à ce moment-là, nous avons fait un manteau plissé qui n'était pas habituellement en montagnard, quand il est très très épais, plissé à la machine. Les machines n'existaient pas. Il a fallu que je dise aux fabricants de machines de faire des pièces spéciales qui puissent plisser un tissu épais. Ce qui a été fait, et ce manteau, je l'ai vendu 200 000 fois. Et ça m'a fait vraiment le départ de ma fortune, je dois l'avouer.
L'année suivante, vous créez également la fameuse robe bulle.
Oui, ça c'est après, oui, oui, oui.
C'est un petit peu
alors,
plus tard.
Ça c'est l'opposé du tissu montagnac, parce que la bulle était faite en matière de moustine très légère, en gaz, donc c'était un... J'avais comme ami un metteur en scène qui avait fait Ballon Rouge, je ne sais pas si vous avez vu ce film merveilleux poétique. C'était un ami à moi, et... Ce Ballon Rouge m'avait toujours imprimé, si vous voulez, j'avais toujours resté cette poésie, cette fragilité, cette épreuve d'émotion que peut donner une bulle de savon ou un ballon. Et ce film, j'ai voulu refaire des robes qui pouvaient en effet représenter des bulles, un ballon. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de travailler des moustines très très légères, gazeuses, et d'en faire des robes qui étaient comme des bulles. Donc ça a été un peu inattendu dans la mode, parce que ça n'existait pas.
En 1959, votre...
Donc c'était toujours le rond, imaginez. Wow, que la suite de ma carrière a toujours été la bulle, le rond.
Autour
donc,
du voyez rond,
que
sans parler
vous parlez
du,
des bulles, pas
les bulles, mais
après
reparler.
50 ans après, on en reparlera encore.
Alors, en 1959, vous êtes encore là particulièrement audacieux et quitte à rompre avec le milieu de la mode en vous lançant dans l'aventure de la haute couture.
Oui, la haute couture me trouvait... J'avais pas un côté socialiste, j'avais l'ambition d'être capitaliste, je voulais tellement être capitaliste que vraiment j'ai beaucoup travaillé pour l'être d'ailleurs. Mais néanmoins, le côté social m'intéressait, je me disais pourquoi seulement les gens riches peuvent s'habiller en haute couture. Un jour va sûrement se transformer dans la mode, dans l'industrie. Les femmes commençaient déjà à travailler, c'est-à-dire les femmes ne travaillaient pas avant. C'était quand on avait une situation, on n'acceptait pas que sa femme puisse travailler. Mm-hmm. Je me disais, bon, très bien, il y a des femmes qui travaillent dans la presse, des femmes qui travaillent dans la haute couture. Moi, j'avais pris des grandes ambassadrices comme Nicolas Alphand, des ambassadrices, des princesses comme directrices. Je me dis, mais quand même, si à ce moment-là, les femmes du monde, qu'on en disait, les femmes du monde travaillent, qui va s'habiller? Elles n'auront plus le temps d'aller d'organiser des bals, des soirées, des dîners. Elles vont travailler, elles seront fatiguées comme les hommes dans leur famille. Ce qui est d'ailleurs arrivé avec le temps, vous avez vu que j'ai raison. Mmh. Donc je me suis dit, je vais quand même faire de la création, ce qui était l'essentiel pour moi, pour garder mon image et ma personnalité. Mais je vais vendre mon nom dans les grands magasins, tant que c'était Le Printemps, Larry Nashente, TRT, c'était Harrods en Angleterre, c'était Boniteur en Amérique, Takashimaya au Japon. Je me suis mis à m'exporter en réalité, d'exporter les idées. Bien sûr, j'ai continué à faire des robes à des clients privés, mais je voulais vendre mon nom pour me faire la multiplication, c'est-à-dire ne pas rester à un exemplaire ou trois ou quatre, de faire quand même des centaines et des milliers de robes. Et ça a été une idée qui a été très mal reçue par la Chambre syndicale en me disant « Vous êtes dans un organisme de la couture de la Chambre française, vous devez comprendre que vous devez respecter les conditions pour lesquelles vous êtes admis. Et nous vous demandons pratiquement de quitter la Chambre puisque vous n'avez pas vu les règles qui sont là. » Et moi, je me suis dit, j'étais alors relativement très jeune à l'époque. Et puis, j'avais de l'ambition surtout. Et deuxièmement, je savais que si ce n'était pas la haute couture, ce serait autre chose. Pour moi, je n'étais pas lié. Puisque mon but, c'était d'être danseur et acteur. Donc, c'était une autre dimension que j'avais en moi-même. Je me suis dit, écoutez, s'il ne veut pas de moi, je vais faire ce que je veux puisque j'ai encore juste. Si j'échoue, je vais sûrement réussir par la suite dans d'autres choses. Et ça a été un gros succès. Ça a été un énorme succès qui a été très critiqué. Et d'ailleurs, 3-4 ans après, la Chambre syndicale m'a demandé de revenir comme président, ce que j'ai refusé.
Après vous avoir exclu.
Et puis finalement, mon affaire après l'extension, on est arrivé jusqu'à 700, 800 000 employés. Vous voyez, c'est une rapidité assez foudroyante.
Alors, cette audace et puis cette force aussi d'avoir mené jusqu'au bout vos idées, et vous aviez une formidable, et vous avez toujours une formidable confiance en vous, là ça a été vraiment l'illustration de votre détermination. Dans les années 60, là aussi, on n'a pas parlé du prêt-à-porter aussi masculin, de la mode masculine, parce que c'est aussi important. Si vous voulez, on peut tout de suite en parler, mais les années 60 vont... être pour vous aussi l'occasion de, vous l'avez déjà un petit peu annoncé, de vous ouvrir sur d'autres pays que la France et de faire connaître votre nom et vos créations.
Oui, le prêt-à-porter, puis j'avais une ambition. Très jeune, à 17 ans, 18 ans, j'avais déjà en Égypte, en Syrie, en Perse, en Israël, où Israël n'existait même pas, c'était la Palestine. Mm-hmm. Enfin, j'ai eu toujours cette envie d'être un voyageur. Je suis vénitien, je suis italien, vous le savez. Mm-hmm. Donc j'avais un côté Marco Polo jeune à l'époque, je voulais connaître le monde. Pour moi, la planète était grande, mais quand on a voyagé, ce que j'ai fait dans toute ma carrière, c'est tout petit, la Terre. Donc, si vous voulez, j'avais cette volonté de vouloir connaître pour pouvoir juger, comprendre les mœurs, les religions, le climat, l'architecture, enfin, tout ce qui était le symbole de la créativité. Et ça m'a beaucoup servi par la suite. C'est pour ça que j'ai mené une campagne très, très importante dans le monde entier où j'allais à l'encontre de mon métier, d'essayer d'apporter le luxe, alors que c'était très souvent des pays de misère, en tout cas des pays qui commençaient leur carrière, parce que même le Japon en 57 était tout détruit, vous savez, aller en 56 au Japon. Moi, je suis allé à Hiroshima à l'époque. Ouais. Vous savez, c'était un pays qui était complètement tout en bois, qui a tout brûlé. Ouais. Et le Japon a pris une telle force de volonté d'exister qu'en l'espace de 10 ans, ces buildings ont poussé. Ça a été pareil dans tous les autres pays, d'ailleurs, quand j'ai voyagé, que ce soit en Chine, que ce soit dans toute la partie asiatique, et en même temps, surtout l'Afrique, l'Amérique, enfin, dans tous les pays du monde où j'ai voyagé. J'ai un background, on peut dire, dans le monde, j'ai fait 22 fois le tour du monde, en passant de Buenos Aires, en allant sur Sapporo, en allant sur Anchorage, ou en allant en Amérique du Sud.
Et aujourd'hui, quel pays du monde
Mais écoute, j'en connais, je les connais tous, à part la Corée du Nord,
et
puis quelques pays centrales de l'Afrique où j'ai pas pu m'y rendre. Mais en tout cas, je pense avoir une connaissance assez grande du monde entier, et je le trouve tout petit maintenant. Rien que par la pensée, vous me dites Tokyo, vous me donnez Buenos Aires, vous me donnez n'importe quelle ville. Je m'y suis, Moscou, dans l'Alaska, Alma-Ata, partout. Je m'y suis en une seconde parce que je les connais, je vois, je m'y retrouve. Et puis j'ai même un grand plaisir de mémoriser toutes ces choses que j'ai connues et que j'ai visitées.
Toutes ces villes-là qui sont ces presque pays. Vos quartiers.
Oui. Pour moi, vous me dites, par exemple, après demain, je pars à Moscou. Donc, moi, vous me dites à Moscou, c'est comme si vous me disiez, vous allez aller à Sébastopol, à Paris.
Alors, dans ces
c'est
années vraiment, 60,
c'est très, très près pour moi, tout ça.
Vous ramenez du Japon une jeune mannequin qui va être...
Hiroko,
qui va être un
oui,
petit peu...
Oui, c'est une créature irréelle, matérielle, que personne n'avait vue à Paris en défilé, les Japonaises. Et j'avais trouvé cette fille qui était tellement poétique, tellement fragile, elle survolait. C'est peut-être un des seuls êtres sur Terre que j'ai vu en étant un être vivant, qui marchait sans toucher le sol. Elle avait une manière comme une gazelle, comme une biche. Elle touchait à peine le sol, elle marchait, elle avançait. D'ailleurs, quand je l'ai présentée au monde entier à Paris dans ma collection, il y avait le monde entier en tant que presse. Je dois dire qu'il y a eu un silence et les gens ont vraiment été stupéfaits. La même émotion que j'avais reçue moi-même quand je l'avais vue. C'était un gros triomphe pour elle parce qu'elle a eu la presse entière dans le monde entier en un jour. Toutes les couvertures, Match, Vogue, Harper's Bazaar, enfin tout le monde s'est classé. Hélène Lazareff, enfin elle, tout ça.
Alors, dans ces années-là aussi, n'oublions pas que vous avez travaillé également pour la mode masculine, et y compris, vous avez lancé également toute une ligne de prêt-à-porter pour les hommes.
Oui, parce que la mode n'existait qu'en Angleterre et en Italie pour les hommes. Et je me trouvais assez... J'étais jeune, j'étais mince, enfin, je voulais m'habiller personnellement et différemment. Et
vous avez le culot dit d'ailleurs que ce que vous ne trouviez pas, vous l'inventiez.
Voilà. Et le culot était grand parce que je me suis dit, que vais-je faire? Je ne vais pas aller présenter dans une maison de couture. Ça va dire que ça va être efféminé, ça va être critiqué. Non, j'ai fait la chose suivante. J'ai téléphoné à tous les recteurs, sciences, maths, philo, médecine, dentaire, etc. Je leur ai dit au recteur, écoutez, voilà, je suis... Ils ne savaient pas qui j'étais, d'ailleurs. Mais j'avais assez d'audace tout de même. C'est d'avoir de l'audace dans la vie et de l'ambition. Hein. Je lui ai dit, voilà, j'ai prévu une collection pour les hommes. J'aimerais avoir des étudiants pour la présenter. Il me dit, mais vous savez, monsieur, nous sommes une université, nous ne sommes pas une maison de mode ni de commerce. Je lui dis, oui, mais c'est bien la raison pour laquelle je vous téléphone.
On est au début des années 60, par là.
Oui. Et je lui dis, écoutez, de toute façon, j'aimerais beaucoup que ces jeunes gens puissent défiler pour moi. Et bien sûr, ils seront payés, habillés, nourris. Alors là, ça change un petit peu le projet, parce que les étudiants faisaient souvent garçon café dans les restaurants pour gagner un peu d'argent. Il a fait donc un appel aux étudiants, et qui ont été tous ravis. Alors j'en ai eu 250 au crayon, j'ai fait ça à la place de la Concorde. Et puis alors, il y avait tous les copains qui sont venus, c'est-à-dire qu'on était au moins 300, 400, 500. Et j'ai présenté la collection d'hommes qui a été vraiment une contestation par rapport à l'Angleterre et à l'Italie. Il fallait toujours faire différent. Et ça a été un triomphe. Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite faire la confection et donner mes licences à Pierre Carnavêtement dans le monde entier, qui m'a enrichi en réalité. Une petite idée comme ça peut donner des choses étonnantes.
Vous en avez vu beaucoup pour les hommes, en particulier les cravates à fleurs.
Oui, après là, j'ai habillé l'homme de A à Z. Je suis parti de la chaussure, la chaussette, le slip, j'ai fait la composition. On met d'abord son slip, après on met son pantalon, après on met ses chaussettes, après son couloir, sa cravate, son nez, enfin, le manteau, etc. J'ai vraiment disséqué, si vous voulez, comment on s'habille. Et en même temps, la serviette aussi, le savon, etc. Enfin, j'ai vraiment délibéré dans la réalité de la vie.
C'est-à-dire que vous avez effectivement aussi créé tous les accessoires qui vont avec. Vous avez décliné...
Les montres, etc. Toutes les serviettes, les stylos. Non, je suis allé très très loin
de
la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est s'habiller, manger et habiter une maison, faire des meubles. En fin de compte, qu'est-ce que c'est vivre? Ou alors on prend sa pomme qu'on cueille sur l'arbre et son poisson qu'on pêche. Mais si vous voulez, tout ce qui est artificiel, on n'a besoin de rien dans la vie en réalité. Nous avons créé un besoin.
On crée les besoins.
On l'a créé soi-même et si vous le créez, il faut l'assumer.
Alors, toujours dans le domaine de la mode, très récemment, vous n'avez jamais cessé de créer d'abord des modèles?
Moi, j'ai toujours trouvé mon équilibre dans la vie, par mon travail, par la création, par les responsabilités. Je n'ai jamais considéré mon métier comme un travail, ni tout ce que je fais d'ailleurs. Par exemple, avec vous, je ne travaille pas. Pour d'autres, c'est un travail. Pour moi, non, c'est un plaisir, comprenez-vous? À partir du moment où vous analysez que la fonction que vous réalisez au moment même précis n'est pas du travail, vous êtes heureux. J'ai toujours été un homme heureux, je ne me suis jamais plaint, et pourtant j'ai travaillé beaucoup.
Très récemment, puisque c'était cet été, vous avez présenté une collection. Ça faisait plusieurs années que vous étiez absent de présentation de défilé. Et vous avez présenté une collection l'été dernier dans le Marais sur des mannequins. Et ça a été l'occasion de montrer au grand public
que j'existais encore. C'est-à-dire que je voyageais beaucoup dans le monde entier, comme je suis toujours en avion. J'ai présenté sur la Grande Place Rouge, par exemple, devant tout de même 100 000 personnes. J'ai présenté au Palais Tiananmen, sur la place au Palais Impérial. J'ai présenté aux Pyramides, j'ai présenté à Chichen Itza, j'ai présenté au Palais Impérial de Tokyo, du Japon. Vous savez, j'ai fait des manifestations qui n'étaient pas les 4 chaises dorées de Paris. J'avais tellement d'ambition, je dois vous l'avouer, et encore c'est une qualité, que pour moi c'était un message que je voulais faire. C'était pas tellement de vendre la robe, c'est vendre ce que pouvait être la mode, culturellement d'abord, et deuxièmement sur le plan, disons, financier. Car c'est social la mode, ça a beaucoup de signification. C'est pas seulement un vêtement porté, vous êtes plus belle ou plus mince ou plus jolie, non. Il faut regarder que le Saint-Père, le Pie XII, d'ailleurs, m'a reçu pendant un quart d'heure, et nous avions parlé de la mode, justement, la psychologie de la mode. D'abord, un vêtement, par exemple, le pape sans son habit n'est pas un pape. Un cosmonaute sans son costume n'est pas un cosmonaute. Donc déjà, le métier. Un médecin, il n'est pas un militaire, etc. Vous voyez. Deuxièmement, ça fait la fonction. C'est-à-dire que si vous êtes japonais ou chinois ou français, vous voyez déjà que le vêtement de la Chine avant, maintenant moins, mais avant c'était déjà rien que le vêtement, vous êtes japonaise ou chinoise. En plus de ça, ça représente, si vous avez des belles matières, des choses de qualité, vous êtes plus ou moins, vous avez des moyens ou pas, c'est-à-dire socialement ça vous classe également. En plus la mode, ça peut dire si vous êtes coquette ou sensuelle, ou si vous êtes une négligée, on peut le voir aussi sur une personne. Moi c'est une analyse, une radiographie énorme. Dès que je vois une personne, je peux la situer dans la fonction, si elle est intellectuelle, si elle est au contraire artiste, ou si pour elle le vêtement n'a pas d'importance. Donc, si vous voulez, je peux voir vraiment beaucoup de choses dans un vêtement. C'est une analyse, c'est un critique extraordinaire, c'est une radiographie.
Je pense qu'elle est immédiate dans vos yeux, effectivement. En ce moment, vous travaillez sur des modèles et des matières particulières?
J'ai eu un grand intérêt sur la chimie d'aujourd'hui, parce qu'il y a des matières extrêmement nobles aujourd'hui, qui sont devenues nobles, qui dérivaient du pétrole, toutes ces choses-là. Hélas, la soie, le coton, la laine, c'est très, 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 très délaissé actuellement pour les matières qui sont devenues l'idée de l'intelligence de l'homme. Puisque maintenant, tous ces nouveaux matériels, par exemple, dans la soie synthétique, on peut dire que même les robes du soir, aujourd'hui, quand on en fait, même heureusement dans la haute couture, eh bien, beaucoup sont faites en synthétique. Au privilège de la soie, car la soie est très difficile à nettoyer, elle est fragile, voyez-vous, alors que les matières synthétiques sont lavables, même les robes du soir, ce qui paraît étrange, et en plus de ça, elles sont beaucoup moins chères, enfin le tissu est moins cher, évidemment.
Pour clore un petit peu cette partie sur la mode, vous avez ouvert aussi très récemment, il y a quelques mois, là, à peine en septembre, votre musée de la mode à Saint-Ouen. Ou oui, disons c'est un lieu pour accueillir.
Oui, d'abord Saint-Ouen, pourquoi ? Parce que j'ai toujours habité
après la rue Saint-Honoré, voilà. L'espace Cardin.
Oui, c'est ça, 65 voilà. En place pour Saint-Honoré, donc c'est vous dire que place Beauvau.
Parce que nous n'avons pas eu le temps de le dire, mais si votre carrière à Paris a commencé rue Saint-Honoré, comme vous nous le racontiez tout à l'heure, vous avez aussi, par la suite, acheté des galeries rue Saint-Honoré, etc., dont vous avez fait des espaces particuliers.
Oui, j'étais le premier à faire, de la mode de faire dans toutes les villes. Si vous voulez, la décentralisation sous l'époque de Gaulle. J'avais déjà 38 boutiques en France. On en voyait à l'époque. Maintenant, je m'en suis séparé pour beaucoup. Il m'en reste 5. Mais enfin, Paris est d'accord, beaucoup pas mal. Mais j'y croyais plus avant. Maintenant, j'y crois moins, si vous voulez, parce que j'ai évolué, tout simplement.
Alors, votre dernier achat, on peut dire comme ça. Enfin non, votre dernier lieu.
Bien, j'avais un lieu à Saint-Ouen que j'avais acheté il y a 30 ans, 35 ans.
Je me suis dit
un jour, Saint-Ouen deviendra le 21e arrondissement de Paris. J'y croyais beaucoup. C'est un endroit où on n'allait pas, parce que c'était assez pas bien fréquenté. Mais depuis que le Stadium a donné tout de même cette explosion de jeunesse qui se dirige dans cette direction, et moi j'avais donc eu cet instinct d'acheter un grand garage, 3 500 m². Et qu'est-ce que j'en ai fait ? Un musée. Avec un théâtre, avec une des salles de conférences, avec des chambres pour des artistes, il fallait faire un petit centre culturel à ma dimension. Et en fin de compte, c'est avéré qu'avec le temps, j'ai eu raison, puisqu'aujourd'hui, maintenant, ce quartier a beaucoup évolué. Il est devenu un quartier où vraiment beaucoup de buildings modernes se sont installés, à l'étranger et tout. Et ça devient en effet à 10 minutes de la place de la Concorde, vous comprenez, c'est quand même un endroit merveilleux.
Alors c'est un lieu où on peut voir vos grandes créations.
Oui, alors là j'ai accumulé, je n'ai jamais soldé de ma vie, vous savez les couturiers soldent habituellement en fin de saison. Et moi j'ai eu le courage et en même temps le plaisir de conserver toutes mes créations, de les garder et puis j'en ai quand même près de 5000, ce qui fait beaucoup entre bijoux, chaussures, gants et puis tous les 5000 vêtements. Je me suis dit que vais-je en faire ? Le temps a passé, la jeunesse est disparue et la vieillesse est arrivée. Je me suis dit, sous ces vêtements qui m'encombraient, parce que j'ai quand même 5 étages de vêtements, importants Faubourg Saint-Honoré, donc c'était quand même une location très chère pour des vêtements que je ne vends pas. J'avais donc ce lieu et je l'ai transformé en musée, en y mettant aussi bien mes meubles, puisque j'ai depuis 50 ans travaillé les meubles.
Oui, vous y présentez plusieurs meubles.
Oui, non, j'en ai fait plus de 100.
Ah oui, non,
non,
je
non, j'en ai pas fait plusieurs, j'en ai fait beaucoup.
Oui,
c'est avéré que vous avez pu voir, là, dans la dernière hommage que l'on m'a fait, il y en a quelques-uns.
Voilà, alors justement, c'est la transition pour une autre partie de l'émission, où nous aborderons effectivement vos créations dans le mobilier dans quelques instants. Pierre Cardin, vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 1991. Vous avez été reconnu pour vos talents de grand couturier, pour vos talents de créateur, tout simplement, pour également vos actions de mécénat. Et nous vous évoquions précédemment les meubles, vos collections et vos créations de meubles. Une partie est exposée au musée de Saint-Ouen, mais effectivement, c'est depuis les années 60 que vous vous êtes lancé dans la création de mobilier contemporain. Alors, le mobilier Cardin, c'est le fruit d'une aventure collective. Parlez-nous un petit peu de vos équipes et de ces
J'avais 8
ces
ans
designers.
Dans les meubles, vous parlez des meubles. J'avais 8 ans, j'avais un ami qui s'appelait Samud, dont le père avait une menuiserie. Et les jeudis, qui était notre jour de vacances, en étant à l'école, je le passais l'après-midi dans la menuiserie. Et avec les copeaux, avec la sciure, avec la colle, je travaillais manuellement à faire des sculptures et à faire des meubles. Donc mon premier départ, je crois, si je suis devenu ensuite... disons ébéniste et en même temps ayant fait ces meubles qui actuellement est une grande valeur, sont reconnus. C'est peut-être cette période-là où, en effet, enfant, avec mon camarade, on faisait des meubles, des chaises, des tables, on faisait des petites sculptures avec de la sciure. C'est peut-être là le départ de mon intuition du départ.
Et aussi votre amour du bois, parce qu'il y a un souci et vraiment très marqué de la qualité.
La qualité du bois est essentielle, mais cela n'empêche pas. Moi, j'ai voulu faire la laque parce que je trouvais que la laque, ça avait été un peu abandonné par les Chinois, par les Japonais. Enfin, c'est une période très importante. C'est un anoblissement du bois. C'était des meubles reversibles, si l'on peut dire, des meubles sculptures.
J'aimerais que vous reveniez un petit peu là-dessus, puisque vos meubles sont en fait quand même des sculptures. Ce sont des sculptures que vous appelez utilitaires. Vous avez voulu concilier la fantaisie, mais aussi la fonction.
La fonction,
Meuble.
Donc ces meubles étaient dans l'endroit, l'envers, le dos.
Des meubles recto-verso, un petit peu comme les costumes, un petit peu comme le vêtement. Vous avez appliqué cette idée.
J'ai appliqué le meuble en plus qu'en tant que sculpture et qu'élément. Je pense que le meuble en soi-même, quand il était par exemple les meubles boules, par exemple du 7e, et les meubles anciens des grandes époques, sont toujours très laids de dos. On les mettait contre les murs. Alors que moi, j'ai pensé qu'il
devait
avoir tridimensionnel, il devait avoir dans toutes les formes. Alors j'ai conçu des meubles importants, tout de même des meubles d'1m50, 1m60 et peut-être davantage, mais que l'on puisse tourner autour et surtout que l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur. Alors que les meubles d'époque, si vous regardez les tiroirs, si vous regardez le dos, de formes qui n'étaient pas l'habituelle carré ou l'habituelle commode, en faisant des formes sculptures, justement. C'est ce qui fait que je les ai appelés des meubles sculptures et utilitaires.
Parmi ces meubles sculptures, il y a le masque de guerre, c'est le nom que vous avez donné à ce meuble en bois laqué gris.
Vous voulez parler l'énigme.
L'énigme, la commode demi-lune.
Le rond, il y a surtout beaucoup de ronds.
Le meuble manta, beaucoup de ronds.
Beaucoup de ronds, parce que pour moi, le rond, c'est mon symbole. Le rond, c'est l'infini, on roule, il n'y a pas de fin avec le rond, alors que le carré ou le triangle, on s'arrête, on heurte des angles. Alors que la boule, la créativité, pour moi, c'est le rond, parce que ça ne peut pas s'arrêter, ça doit continuer, comme le monde, les astres, les satellites. C'est pour ça que ma période de mode, vous retrouvez beaucoup inspiré des satellites, du cosmos, de la Lune, etc. etc.
Alors, est-ce que vous étiez, dans les années 70, à la recherche d'une esthétique particulière ?
Oui, en 70, je voulais être moi-même, surtout. Je sortais un petit peu de mon apprentissage moral, en tout cas, de ce que j'avais appris, en respectant évidemment mes maîtres qui m'ont appris. Mais je voulais être moi-même et ne jamais imiter les autres. C'est la raison que tous ces voyages dont nous avons parlé au début m'ont permis de connaître le monde entier, tous les musées, tous les sites archéologiques, pour bien m'imprégner de ce qui a été fait avant, aussi bien par les régions, les techniques de chaque pays, de chaque région, chaque civilisation, chaque culture. Il faut avoir une très grande culture pour se détacher. Moi, je n'allais pas dans les musées pour imiter ou copier ou transposer. J'allais justement pour m'écarter de ce qui a existé. C'est ce qui fait que ma personnalité a été très souvent boudée, enfin, pas boudée ni rejetée, mais la période de 70 à 80 était assez agressive par rapport à ce que l'on faisait habituellement dans les maisons de couture, parce que c'était plutôt des jolies robes. Le beau ou le goût n'est pas de la création.
J'allais vous poser la question, qu'est-ce que la beauté pour vous, Pierre Cardin ?
C'est la création, la beauté pour moi avant tout, n'est-ce pas ? Un être intérieur et l'intérieur d'une personne, c'est ce qui se dégage en soi-même, c'est pas ni un physique. Bien sûr, l'attrait, c'est le physique au début, mais après, ce qu'il en sort chez un individu, c'est l'âme, c'est ce qui est intérieurement, c'est la qualité et la beauté de l'âme. Et dans les vêtements, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir, en effet, cette part de vêtements qui pouvaient être comme des sculptures humaines, qui marchaient, qui avaient utilité, mais en même temps, le corps était une matière. J'ai conçu mes robes comme ça, là, une grande partie, je dirais pas en généralité, bien sûr, mais ma créativité, le corps est liquide, est une matière.
Oui,
je fais ma sculpture comme un vase, je prends ce verre, j'en fais une robe, la forme, bien sûr, portable, parce que le vêtement est portable, c'est pas comme une sculpture que l'on peut placer, un vêtement doit bouger. Et je prenais donc le corps de l'homme ou de la femme, en tout cas de la femme sûrement, puisque c'est plus facile pour la créativité, et je le jetais dans mon verre. Et la femme avait un verre, une robe en verre, enfin verre, c'est-à-dire à la forme du verre. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. C'est pour ça que mes robes sont plutôt des sculptures. D'où vous verrez si vous venez au musée, oui. Des robes, évidemment, une grande partie sont des robes qui sont tout de même portables parce qu'on peut les habiller, on se mettre dans la robe.
Et puis, vous avez aussi travaillé sur des matériaux particuliers, les robes thermoformées. Là,
oui,
vous avez vraiment
thermo,
sur la forme.
Absolument.
Vous avez vraiment
là,
été très
sculptures.
Créatif.
Vous avez des sculptures en bois. Oui. Ensuite, on apprenait les premières matières qui, à l'époque, étaient difficiles à trouver. Ça n'existait pas.
Oui.
Alors, on faisait le double moule comme une sculpture et on pressait à X degrés pour avoir les formes que vous aviez données à votre robe. Mais ça, c'était impossible à continuer parce que ça coûtait très cher. Puis, il y avait les questions des tailles. Et puis, à l'époque, quand je faisais ça, il y avait très peu de matériel.
Alors, vous avez créé des meubles, mais on le sait peut-être moins. Enfin, moi, je ne le savais pas. En tout cas, vous avez même signé l'intérieur d'une voiture, la fameuse Barreau dans les années 75.
Oui, j'ai fait des intérieurs d'avions, de voitures, des immeubles. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, des couverts, des nappes, des fourchettes, des tasses, des verres, des assiettes, des lits. Et enfin, je me suis un petit peu... Je ne vais pas faire les numériques de ce que j'ai fait. Ça serait une grande prétention. Mais je voulais me servir de mon nom pour en faire une marque. Parce que la griffe de haute couture ne me suffisait pas. Je voulais être une marque, et évidemment, au risque de me perdre aussi, parce que c'était dangereux de le faire. Cardin fait tout, il fait du papier hygiénique, enfin, etc. Mmh. Mais quelle honte y a-t-il à faire du savon et du papier hygiénique? Je n'en vois pas. Il n'y a que dans la pensée de l'homme qui est vulgaire. Ce n'est pas le papier qui l'aide, en tout cas. Donc, j'ai bouleversé un petit peu les traditions et la conception d'un couturier qui était... avec sa robe, vous voyez, avec ce côté faussement artificiel, d'ailleurs. Moi, j'ai voulu être vrai sur la terre et avoir le courage de mes pensées et d'agir. C'est ce qui fait que ça a été un petit peu une contestation et que je suis encore toujours contestataire malgré mon âge.
Vous pourriez nous parler du logo de Pierre Cardin, de votre griffe?
Ah, le logo PC, oui, c'était à l'époque PC. C'était vulgaire de mettre un PC sur un vêtement, un P, un C, c'était... Déjà PC, le Parti communiste, poste de commandement, PC, enfin c'était pas très
c'était
bien.
Pas
quelle, quelle vulgarité, m'a-t-on dit au début, quand ils ont bu sur des robes en 66-65, des PC sur un peu vêtement. Et c'était pas dans la mode, c'était se vendre comme un homme sandwich, si vous voulez. Alors quand on voit maintenant certains noms que je vais pas dire.
Quand on voit l'engouement.
Là, vous voyez, les chaussures, la ceinture, le gant, le collier, le chapeau, le vêtement, tout est griffé. Donc je ne m'étais pas tellement trompé, mais à l'époque, c'était de très mauvais goût. Mais le très mauvais goût de cette époque est devenu le bon goût d'aujourd'hui. Alors on a un peu basculé. Ce qu'on m'a appris à détester par la culture que j'ai eue, par Cocteau, par Bérard, enfin par Visconti, par des gens qui ont tout de même m'ont formé. Je veux dire que j'ai eu la chance beaucoup d'avoir des gens exceptionnels.
Oui.
Ce qu'on apprenait à ce moment-là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ce qu'il ne fallait pas faire qui devient un mode. Alors, on est un peu déboussolé. Mais ne m'empêche pas que moi, si j'avais 20 ans maintenant, je serais comme tous les jeunes gens d'aujourd'hui.
Il y a des mots qui vous ont inspiré ou qui expriment votre démarche. Qu'évoque pour vous, par exemple, le mot cercle? Vous en avez parlé tout à l'heure.
C'est surtout l'espace, le cercle, c'est le rond. On revient toujours, on tourne en rond, si l'on peut dire. Un jour, quand j'ai acheté mon théâtre à l'espace Cardin, qui était l'ancien théâtre des ambassadeurs, je ne savais pas comment le dénommer. Enfin, je me suis dit, je ne vais pas laisser le théâtre des ambassadeurs, parce que je suis Pierre Cardin. Et je me suis révolté parce qu'on me disait, on m'a donné, non, 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 je veux un espace, vous comprenez, un espace. Et j'ai été saisi par ce... J'ai dit, mais espace, c'est vrai que c'est un espace. Eh bien, je vais l'appeler le théâtre de l'espace. Et ça n'existait pas. L'espace n'existait pas dans un nom.
Et aujourd'hui, on trouve
et
des espaces
partout. Et maintenant, on voit des espaces partout. Voilà comment c'est parti, le nom espace.
Alors, il y a d'autres mots, évolution.
Évolution, oui, parce que j'avais l'acquis, j'avais la créativité, et je voulais ne pas rester sur le même plan de créativité. Je me dis, il faut que j'évolue moi-même. Si j'évolue, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça va être évolution de Pierre Cardin. Si vous voulez, il y a tous des
toujours
des
en
thèmes.
Mouvement.
Et c'était moderne comme mot évolution également, ça n'existait pas. C'est dans le dictionnaire, mais pas dans le même sens.
Qu'évoque pour vous le mot environnement que vous avez aussi adopté?
Oui, environnement, l'environnement de Pierre Cardin, c'est-à-dire tout ce qui pouvait me toucher, d'essayer de lui donner une marque de fabrique. Mon ambition était très grande, je dois vous dire, je ne suis pas modeste en vous disant ça. J'en suis très conscient, alors que moi je suis un homme très seul et très solitaire, et je peux vivre avec un bout de fromage et un bon vin, c'est tout, ça me suffit, je n'ai pas besoin. Je suis très riche, vous me direz, c'est vrai. Mais enfin, la richesse, c'est la richesse que j'ai intérieurement. C'est pas l'argent. L'argent, bon, j'en ai pour mourir. Ça, c'est évident. Mais ce qui est en moi intéressant, quand on ne me connaît pas, c'est que je suis intérieurement riche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vulgarité dans ma personne, en tout cas, je crois, et que tout ce que je le fais pour les autres. Parce que moi, j'ai besoin de rien. Vous me direz, c'est facile, vous avez tout. Mais en tout cas, je ne m'en sers pas de tout ce que j'ai. Quand j'ai terminé une chose, des châteaux, etc., des théâtres, ou tout ce que vous pensez, des voitures merveilleuses, eh bien, ça ne m'appartient plus, c'est le plaisir et la joie de les réaliser. Comme un étudiant qui veut avoir...
C'est votre moteur.
Voilà, c'est mon moteur, c'est... Votre... Et après, évidemment, il y a un résultat. Quand vous êtes aussi ambitieux et courageux et travailleur, il faut bien qu'il y ait, si vous voulez, une récompense. Eh bien, c'est une récompense. Elle existe, mais elle n'existe pas tellement pour moi, elle existe plutôt pour les autres. Parce que tout ça, ce sont des frais énormes à gérer. Ça coûte très cher à réaliser. Si vous voulez, c'est une dépense. Je ne suis pas le banquier qui gagne de l'argent et puis je le mets ailleurs, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui fait fructifier l'argent. Non, pour moi, l'argent est une matière pour m'en servir. Elle n'est pas pour la mettre en coffre, vous comprenez ? C'est très différent comme conception.
Alors, Pierre Cardin, un dernier mot pour vous faire réagir. Le mot cosmos.
Oui, le cosmos, les satellites, les lasers, les computers, tout ça, ça m'attirait toujours. Je voyais toujours ça. On parlait beaucoup en 5 ans déjà qu'un homme allait marcher sur la Lune. Et moi, j'avais donc fait des dessins à cette époque, en effet, qui sont d'ailleurs le reflet qu'on porte maintenant dans la rue, qui sont presque démodés, je veux dire, aujourd'hui. Et qui, je me voyais vraiment, ça m'attirait, tout scientifique, avec tous les satellites qui partaient, ces fusées, etc. Je me dis peut-être qu'il y a là-haut, sur la Lune, on y pensait en tout cas, qu'il y avait des êtres humains, une vie. Et j'avais fabulé là-dessus, et c'est comme ça que, si vous voulez, j'avais pensé à cette nouvelle direction du monde, puisqu'on avait, la Terre avait vraiment été reconnue du monde entier maintenant, et que c'était la Lune auquel il fallait aller. Et j'ai suivi un peu ce moment-là. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu lunaire, quand on peut dire, un peu rêveur.
Oui, j'allais vous demander dans quelle dimension vivez-vous ? Vous êtes rêveur, mais vous avez les pieds bien sur Terre.
Oui, j'ai les deux. Ce qui est très souvent, même économiquement, j'ai les deux. Je suis très généreux pour certaines valeurs que je dois faire et que je me dois de faire. Et en même temps, je suis très économe et je ne vais pas épater les imbéciles de toute façon, n'est-ce pas ? Je suis très conscient de ce que je fais, ce que je fais. Et en même temps, je ne vais pas épater non plus. Ce n'est pas ma nature, je n'ai pas besoin de ça.
Bon, par contre, vous êtes discret sur votre action de mécénat. Vous avez créé des prix
Brave
Gardien.
Oui, mais enfin, je ne le fais pas pour qu'on en parle. Je le fais
effectivement, mais
intérieurement.
C'est un pan de votre personnalité quand même important. C'est cette générosité que vous avez un petit peu évoquée, suggérée là tout à l'heure. Effectivement, vous rendez aux autres et en encourageant les talents des différents arts, vous avez soutenu beaucoup de jeunes artistes et vous continuez. Vous êtes également, c'est moins connu, mais on abordera peut-être ça dans une autre émission, ambassadeur honoraire auprès de l'UNESCO depuis 1991. Et à travers cette mission diplomatique, vous faites connaître le nom de Pierre Cardin, mais aussi de la haute couture, de toutes les créations de
oui,
France. Mais également, vous êtes vraiment au service de grandes causes. Au moment de Tchernobyl, on a fait appel à vous.
Oui, c'est moi qui fais la fermeture des centrales nucléaires.
Voilà, c'est
moins
connu, tout ça.
C'est d'ailleurs le secrétaire général président de l'UNESCO qui m'a demandé de représenter cela à Kiev. Mais c'est vrai que j'ai participé et que je continue d'ailleurs à les travaux de la tolérance. Et moi, non seulement en plus de ça, je veux dire, c'est vraiment du mécénat parce que les drapeaux, c'est moi qui ai pris les toiles, qui les ai fait tisser, qui ai demandé aux peintres représentant chaque continent, qui les promène dans le monde entier, qui les voyage avec eux, aussi bien du nord au sud qu'à l'ouest. Et c'est moi qui paie mes frais, c'est moi qui paie mes voyages, c'est moi qui paie mes billets. Enfin, je veux dire, il y a des choses que je ne dis pas, mais je n'ai qu'à pas le faire. Si je le fais pas pour qu'on dise que Pierre Cardin paie son billet, vous comprenez? Je le fais parce que c'est mon devoir. Je suis ambassadeur à l'UNESCO. J'ai une mission, c'est Tchernobyl et c'est la tolérance. Eh bien, je l'assume, pas du tout pour être fier de dire je suis ambassadeur. Je suis en action et je le fais en silence et en discrétion.
Voilà, un homme plein d'humanité et d'action généreuse sans fin. Pierre Cardin, merci pour
merci
aujourd'hui.
Merci également.